merci beaucoup. Merci, professeur Villanueva. Quand j'ai vu le titre de votre présentation, j'avais peur de devoir improviser à la dernière minute de ma présentation pour éviter de répéter. J'ai été très chanceux. Nos présentations ne vont pas se répéter, mais on va plutôt se complémenter. Je voudrais juste souligner trois points auxquels je vais me référer dans votre présentation pour bâtir la mienne, parce qu'ils ont été très bien présentés en détail. Donc, vraiment, la structure et la logique des accords de coopération dans le domaine du travail, donc ça a été très bien présenté. Je ne m'attendrai pas à ça, je vais assumer que c'est dit. Ensuite, la déclaration de 1998 de l'OIT, je vais m'y référer aussi, mais je ne dirai pas les détails, parce qu'ils ont déjà été mentionnés. Puis, finalement, le débat juridique détaillé. Je ne suis pas un juriste, donc dans ma présentation, je vais être peut-être plus sommaire, peut-être escamoter certains points. Je sais qu'il y a des éminents spécialistes dans la salle. C'est vraiment juste pour rester dans les temps que je vais peut-être passer par-dessus certains points assez rapidement, puis prendre quelques petits raccourcis, là, mais on peut en discuter plus profondément dans la période de questions. Alors, l'effet de l'intégration économique internationale sur l'emploi, le respect et le maintien des droits du travail fait l'objet de beaucoup d'attention. C'est pour ça qu'on est là, notamment. Et c'est pour ça aussi que les décideurs publics, les décideurs politiques ont fait l'objet de pression de la part de divers acteurs de la société civile pour inclure des mécanismes de régulation du travail ayant une portée internationale. Ma présentation propose de s'intéresser à la gouvernance du travail au niveau intergouvernemental en prenant pour objet l'instrument qui, paradoxalement, peut-être, symbolise l'intégration économique internationale, c'est-à-dire les accords de libre-échange, donc les accords commerciaux bilatéraux. Au sein desquels sont inclus des dispositions promouvant le respect des normes du travail, comme les accords de coopération dans le domaine du travail. Je ne toucherai pas le Canada, je toucherai les accords européens et américains. Donc, ces deux grandes puissances économiques ont chacune développé une approche distincte en matière d'inclusion de normes du travail dans leurs accords commerciaux. Puis, ma présentation explore ces approches de manière comparative pour en faire ressortir les valeurs respectives et identifier les tendances générales. Alors, je vais avoir quatre thèses dans ma présentation, que je vais nommer maintenant, au cas où je manque de temps, puis je n'ai pas le temps de faire tous mes points. La première, le mécanisme de promotion des principes et droits fondamentaux du travail contenus dans les accords américains et dans les accords européens ne semble pas être en mesure, à ce jour, d'avoir des impacts réels ou significatifs sur les droits des travailleurs au sein des pays visés. Ça, j'aimerais en discuter à la fin, mais je crois que tout le monde ici a arrivé à un résultat plus ou moins similaire. Deuxièmement, les objectifs économiques, donc commerce, compétition, investissement, propriété intellectuelle, semblent prendre le pas sur les objectifs sociaux, donc principalement le travail, dans le processus d'intégration profonde, donc là je tire le terme des théories du nouveau régionalisme. Donc l'intégration profonde s'opère davantage au niveau économique qu'au niveau social. Troisièmement, les États-Unis ont développé une approche formellement plus agressive que l'Union européenne au sein des accords commerciaux, avec un recours au mécanisme de règlement des différends. Mais je vais tenter de montrer que l'efficacité de cette approche-là plus agressive peut être mise en doute. Quatrièmement, l'Union européenne semble revenir vers une approche favorisant le lien travail-commerce qu'elle avait abandonné au début des années 2000. Mais cela s'effectue sans remettre en question la position antiprotectionniste et volontariste que j'ai présentée, donc pour des raisons institutionnelles, en fait. Je suis content qu'on ait soulevé durant le dîner-causerie le débat de la convergence, parce que dans ma présentation, je vais argumenter qu'on doit rejeter cette hypothèse de convergence, qu'il n'y a pas encore de convergence entre les États-Unis et l'Union européenne au niveau du contenu formel des accords. Ou bien, s'il y a une convergence, c'est plutôt au niveau de l'inefficacité de chaque approche. Je prends des points de vue assez tranchés, mais évidemment, c'est plus nuancé dans la réalité. C'est notamment pour lancer le débat. Un des instruments qui est vu comme étant susceptible de protéger les droits du travail dans un contexte d'intégration économique internationale, c'est l'inclusion de dispositions sur le travail dans les accords de libre-échange, donc la clause sociale. Je veux juste rappeler la logique inhérente qui est de garantir une juste compétition ou un level playing field entre les partenaires concernés. C'est-à-dire qu'aucun des partenaires ne développe des avantages compétitifs basés sur des conditions de travail inhumaines ou inacceptables au regard de certaines normes, par exemple les normes contenues dans la déclaration de 98 de l'OIT, ou les normes du travail internationalement reconnues, qui sont plutôt les normes que les États-Unis ont utilisées pendant longtemps et jusqu'à ce jour, mais avec certaines nuances que je vais montrer. Donc, puisque la clause sociale a pour principe fondamental de mettre un plancher sous lequel la compétition devient injuste, elle a fait l'objet d'un rejet au niveau multilatéral parce qu'elle a été targuée de favoriser le protectionnisme. Donc, c'est pour cette raison que l'idée a été plutôt reprise au niveau des accords commerciaux bilatéraux et régionaux de l'Union européenne et des États-Unis, mais de manière relativement différente. Donc, l'Union européenne de manière plus anti-protectionniste et les États-Unis de manière plus agressive. Donc, une problématique qu'on peut identifier ici, c'est de savoir dans quelle mesure l'intégration des dispositions sur le travail dans ces accords commerciaux impliquant un faible nombre d'acteurs peut contribuer à susciter une convergence internationale, donc un retour par la porte de derrière, soit au niveau multilatéral, soit par une inclusion systématique dans tous les accords, de l'idée de la clause sociale. Est-ce que le détour par la fragmentation peut revenir à une généralisation, une harmonisation? Donc, comme j'ai affirmé en introduction, je crois que non. Mais je crois que les États-Unis continuent à faire cavalier seul dans ce domaine et que l'Union européenne ne suit pas, ou du moins ne suit pas au même niveau. Donc, pour ce qui est de l'approche américaine, qui est très proche de l'approche canadienne, en fait, je vais passer rapidement en identifiant trois types d'accords. Le premier, c'est l'accord nord-américain comme personne dans le domaine du travail, qui est basé sur l'identification de domaines du droit du travail pour lesquels la législation nationale, pour lesquels les États, donc signataires de l'accord, ne peuvent pas déroger. Donc, par exemple, dans le fond, il y a une série de 11 principes, dont 3, donc, qui sont le salaire minimum, le travail des enfants et la santé et la sécurité au travail, peuvent faire l'objet d'un processus d'arbitrage se rendant jusqu'à des sanctions dans le cas où un des États signataires ne respecte pas sa législation nationale dans ce domaine. Pour les 8 autres domaines, le mécanisme de règlement des différends s'arrête uniquement au niveau consultatif. Donc, il ne peut pas faire l'objet de sanctions. Donc, pour ce type d'accord, la souveraineté de chaque État dans l'établissement de ses lois en matière de travail est reconnue et encouragée. Donc, il n'y a pas d'imposition directive de normes internationales. Donc, je vais rapidement faire une petite revue des critiques de cette approche-là. D'une part, pour souligner que si cet accord a suscité la coopération intergouvernementale, la coopération intersyndicale au niveau nord-américain, le vide causé par l'absence de mécanismes contraignants pour la plupart des normes a poussé les syndicats à délaisser l'ANACT. À ce jour, on a eu 30 litiges qui ont été soumis aux instances de premier niveau, mais depuis 2002, en fait, très peu de litiges ont été soumis. Le nombre de plaintes dans les dernières années était quasiment nul, et puis la commission de coopération dans le domaine du travail, qui était chargée de superviser ces mécanismes-là, a tout simplement suspendu ses travaux en 2010. Donc, ce qui fait un peu foi de la désuétude de ce mécanisme-là. Il y a une plainte qui a été déposée en 2011 qui constitue peut-être le dernier test pour vérifier si ce mécanisme de plainte-là est toujours pertinent ou s'il faut le réformer. La plainte est toujours en traitement. Une plainte du Congrès du travail du Canada au nom du Sindicato Mexicano de Electricitas. Les accords suivants. De libre-échange signé par les États-Unis. Donc, je vais sauter celui avec la Jordanie parce que c'est un accord qui est à part, puis qui est à lui seul un accord de deuxième génération. Je vais sauter tout de suite aux accords de troisième génération parce qu'ils sont un peu plus intéressants. Donc, avec l'Amérique centrale, avec le Chili, Singapour, le Maroc, Bahreïn et Oman, qui adoptent un modèle similaire. Mais qui cette fois-ci repose sur les normes présentées dans la déclaration de 98. Donc, ce sont les normes qui sont contenues dans la déclaration de 98 qui identifie les domaines de la législation nationale dont les États signataires ne peuvent déroger. Donc, encore une fois, le mécanisme de plainte est le même, ou très similaire. Puis là, je prends des raccourcis, je sais, pour rentrer dans les temps. Puis, encore une fois, ici, le mécanisme de plainte, on peut se questionner sur son efficacité. On regarde la plainte qui a été déposée contre le Guatemala par les États-Unis, et puis qui a été déposée en 2008. Donc, ça fait déjà 4 ans, bientôt plus. Et puis, ce qui est intéressant avec cette plainte, c'est que c'est la première qui sera au niveau d'arbitrage, donc qui peut potentiellement donner lieu à des sanctions monétaires. Toutefois, comme ça fait 4 ans, beaucoup de gens disent que ça ne suffit pas à protéger les droits des travailleurs. Donc, c'est ce qui mène à les accords de quatrième génération, donc, qui ont fait l'objet de beaucoup d'attention, notamment au sein du CIM. Donc, qui sont les accords signés avec le Pérou en 2007, et par la suite, les trois accords de 2011, adoptés par le Congrès sous Obama, donc avec la Corée du Sud, la Colombie et Panama. Ces quatre accords sont assez similaires. Ce qui est intéressant, c'est que, ici, les principes de la déclaration de 1998 de l'OIT doivent être transposés dans le droit national. Donc, à ce moment-là, ce n'est plus une incitation au respect de la législation nationale, mais c'est vraiment l'inclusion de principes fondamentaux dans le droit national. La raison pour laquelle c'est possible, c'est que la déclaration de 98 de l'OIT, tous les États membres de l'OIT sont présumés devoir la respecter. Donc, il y a une légitimité à demander, à travers un accord de libre-échange, de mettre en œuvre les normes contenues dans cet accord au sein de la législation nationale. Pour le reste, il y a toujours une obligation de respecter la législation nationale, donc de ne pas diminuer la législation nationale en matière de travail. Puis, ça peut faire l'objet d'un mécanisme de règlement des différends. Ces accords-là, cette nouvelle génération-là d'accords, est considérée comme nettement plus contraignante. Cependant, il n'y a pas encore eu de plainte qui a eu lieu à travers ces accords. Ce qu'on pourrait se demander, c'est est-ce que ces accords de nouvelle génération, avec de nouvelles obligations, un nouveau mécanisme de règlement des différends, constituent vraiment une avancée? Ou est-ce que, par exemple, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des plaintes qui soient issues du cas colombien, parce qu'il y a beaucoup de violations des droits du travail qui sont reconnues pour ce pays-là? Donc, qui vont faire figure de test, dans le fond, pour nous permettre de juger si ces accords-là constituent vraiment une avancée. On peut juste souligner rapidement que l'approche américaine est vraiment conforme avec une logique plus contraignante, donc un levier reposant sur des menaces de sanctions, puis sur l'idée de mettre sur pied un espace de concurrence loyale. Si on passe à l'Union européenne, c'est une entité politique qui diffère radicalement des États-Unis, puis pour cette raison, l'inclusion de normes du travail dans les accords commerciaux se fait d'une manière complètement différente. D'abord, l'Union européenne est caractérisée par une gouvernance multiniveau, parce que l'Union européenne possède, oui, des compétences exclusives en matière de négociation d'accords commerciaux, mais ne possède pas des compétences exclusives en matière de travail. Au niveau intérieur, elle ne peut légiférer dans tous les domaines du droit du travail. Donc, au niveau extérieur, quand vient le temps d'inclure des dispositions sur le travail dans ses accords commerciaux, elle subit un peu un déficit de légitimité et un déficit de compétences. Les États membres considèrent que tout le domaine social est plutôt de leur prérogative. Et puis, ils peinent à déléguer des compétences à l'Union européenne quand vient le temps de négocier des accords commerciaux. Mais ce n'est pas cet élément-là qui, au final, détermine l'approche européenne. C'est plutôt le désaccord qui existe entre les États membres au sujet de l'inclusion de normes du travail. Donc, le fait que l'Union européenne ne possède pas un pouvoir significatif en matière de travail l'empêche d'adopter une position innovante, puis la pousse à aller au plus petit dénominateur commun, qui, dans ce cas, est l'absence totale de sanctions. Donc, je vais présenter ça rapidement. Je veux juste mentionner avant aussi que, puisque chaque État membre doit voter pour adopter un accord de libre-échange qui est signé par l'Union européenne. Donc, chaque État membre possède un pouvoir, là, donc, dont un pouvoir de pratiquement de veto. Voilà. Donc, certains États de l'Union européenne, donc c'est pas des pays en développement, c'est vraiment des pays développés, s'opposent à la logique d'une clause sociale avec sanctions. Puis c'est pour ça, entre autres, que l'idée n'est pas passée au niveau multilatéral. C'est pour ça que l'Union européenne a plutôt opté pour une approche qui est basée sur une dimension sociale de la globalisation. Donc, l'idée, c'est pas de créer une espèce de concurrence loyale avec un plancher de normes à respecter, mais plutôt de développer un agenda social large au sein duquel les normes du travail occupent une place centrale, puis cet agenda social est promu à travers les accords commerciaux signés par l'Union européenne, donc dans un objectif de développement. Donc ça vient vraiment du moment où la clause sociale a été abandonnée à l'OMC, parce qu'en parallèle, le directeur général de l'OIT, Somavia, a mis sur pied la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation, dans laquelle l'Union européenne est embarquée à pieds joints, et sur la base de laquelle elle a fondé sa politique, le pronom social et sa politique commerciale. Donc, ici, les droits du travail dans les accords européens sont considérés davantage comme des droits humains que comme une question de compétition économique, donc de concurrence. Puis c'est un peu ça qui limite l'impact au niveau des sanctions, mais on peut argumenter au contraire que l'accent sur une coopération, sur la coopération et le développement, pourrait contribuer à développer le respect des normes du travail dans les États partenaires. Par exemple, il y a trois accords. Donc, l'accord de Cotonou, qui est un accord général qui doit servir de cadre à la négociation d'accords plus particuliers, qui prévoit la coopération en matière de droits fondamentaux, de droits humains, et qui implicitement inclut les droits sociaux. Puis, il y a aussi un article, un seul, qui réitère l'engagement des États signataires en matière de Bien, pour les normes qui sont contenues dans la déclaration de 1998. Deux autres accords, donc celui qui précède l'accord de Cotonou, donc en 1999, avec l'Afrique du Sud, et un autre qui le suit, donc en 2005, avec le Chili, contiennent aussi, encore une fois, mais ici c'est deux articles en fait chacun, mais deux articles consécutifs, qui identifient la coopération sociale, et plus précisément les normes du travail contenues dans la déclaration de 1998, comme un objet de coopération. Donc, à travers ces accords commerciaux, l'Union européenne affirme qu'elle va coopérer en affaires avec ses partenaires. En pratique, par contre, ce que les recherches les plus récentes ont réalisé, c'est que, bien que ces éléments sociaux soient identifiés comme des éléments essentiels de l'accord, la coopération dans ce domaine est pratiquement inexistante. C'est plutôt les droits fondamentaux de première génération, donc les droits civils et politiques, qui font l'objet de coopération. Les droits économiques et sociaux, donc des droits humains de deuxième génération, sont pratiquement oubliés dans les activités de coopération. Par exemple, au sein de l'accord de Cotonou, la seule fois où les droits du travail ont été mentionnés dans des dialogues et des activités de coopération, c'était concernant le Zimbabwe, et en tant que membre de l'OIT et pas en tant que signataire de l'accord de Cotonou. On peut dire que dans la politique commerciale de l'Union européenne, l'inclusion de dispositions de coopération en matière sociale est reléguée complètement au second plan et même au troisième plan face aux objectifs d'intégration de marché et aux objectifs de droits humains de première génération. Donc, l'hypothèse selon laquelle la coopération pourrait contribuer à améliorer les droits du travail n'est pas vérifié. Alors, je vais conclure en soulignant un peu ce que je n'avais pas annoncé, un punch, c'est qu'il y a des accords de deuxième génération signés par l'Union européenne, qui sont très récents, qui ont fait l'objet de très peu d'attention. Il y a eu quelques articles sur le premier, sur l'accord entre l'Union européenne et le CARIFORUM. Par la suite, il y a eu un accord signé avec la Corée du Sud, un autre signé avec l'Amérique centrale et un autre signé avec la Colombie et le Pérou. Puis, ces quatre accords ont des chapitres qui sont pratiquement calqués sur les chapitres sur le travail des accords commerciaux des États-Unis. On pourrait dire qu'il y a une convergence. Mais en fait, je dis pratiquement calqué parce qu'il y a une demande d'application de la déclaration de 98 dans le droit national. Une clause sur la non-dérogation des droits nationaux. Il y a la mention de nécessité de concurrence loyale. Mais en parallèle, il y a aussi l'affirmation de l'approche antiprotectionniste de l'Union européenne, donc qui stipule que les chapitres sur le travail ne peuvent servir à limiter les avantages comparatifs des partenaires commerciaux. Donc, ça revient à l'opposition du début à l'OMC, à la clause sociale, et la raison pour laquelle la clause sociale n'est pas entrée à l'OMC. Donc, cette position de l'Union européenne reste constante à travers le temps. Donc, c'est pour ça qu'en regard de ça, puis on regarde aussi du fait qu'il n'y a pas de mécanisme de règlement des différents contraignants. Ça reste la coopération en bout de ligne. L'Union européenne a calqué peut-être une partie des chapitres, une partie de son chapitre sur ce qui se fait dans les accords commerciaux américains, mais reste fidèle à sa politique originale de considérer les droits du travail comme des droits humains, contrairement aux États-Unis qui considèrent les droits du travail comme un enjeu de concurrence. C'est pour ça que, comme j'ai annoncé au début, je rejette l'hypothèse de la convergence. Peut-être un peu trop radicalement, parce qu'il y a une convergence partielle, puis il faudra voir dans le futur qu'est-ce que ça donne. Le dernier élément que je voudrais souligner pour conclure et lancer la discussion, c'est que dans les deux cas, autant les États-Unis que l'Union européenne, c'est la volonté politique qui dépend du résultat. Donc, pour ce qui est du traitement des plaintes, là, j'ai pas le temps d'aborder du tout, mais la volonté politique est largement responsable de l'aboutissement des plaintes, tout comme, puis ça je l'ai décrit rapidement, l'issue des activités de coopération. Donc, les coopérations en matière de travail n'ont pas eu lieu, notamment parce que le choix a été porté par les droits de première génération. Donc, la question que je poserai aussi, c'est est-ce qu'on doit remettre en question l'idée de lier travail et commerce? Si le travail passe toujours derrière le commerce et d'autres considérations, autant quand il y a des sanctions que quand c'est de la coopération.